L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous. Bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'atelier numérique. L'atelier numérique, vous le savez, c'est chaque samedi, donc 16h-18h, toute l'actualité high-tech et toute l'économie numérique avec nos invités, bien sûr, et tous nos sujets. Silicon Carnet tout à l'heure, Cyber Gadget avec Antoine, notre focus start-up. On va réinventer la cabine d'essayage. On parlera aussi de réalité augmentée un petit peu plus tard avec Guillaume Degroisse, le crash test d'Antoine, bien sûr. Direction la rédaction de Zeronet.com, aussi avec Eric Lebourlou pour survoler toute l'actualité high-tech de cette semaine. Notre World Tour, nous irons à l'Expo Universelle de Milan avec Lila. Notre French Tech Tour, on évoquera les investissements pour les startups de la French Tech. On parlera aussi de recrutement tout à l'heure. Est-ce que les algorithmes vont remplacer les humains pour recruter les gens?
Les ordinateurs vont remplacer les humains.
Et le big data aussi.
Le big data.
On évoquera la transformation numérique d'Engie aussi tout à l'heure. Et on évoquera le social shopping. Peut-être achetez-vous grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube aujourd'hui, grâce aux communautés. On en parlera avec nos invités. Soyez les bienvenus, c'est parti pour l'atelier numérique avec autour de cette table Guillaume Degroisse qui est là. Salut Guillaume.
Bonsoir à tous.
Aurore Géraud, bonjour Aurore.
Bonjour.
Du côté de San Francisco, nous avons Nathalie Doré. Salut Nathalie.
Bonsoir François.
Voilà Nathalie qui est avec nous depuis l'atelier à San Francisco. Et puis une toute nouvelle, c'est Constance Guyon qui est là. Salut Constance.
Salut François.
Qui n'est pas du tout stressée.
Non, voilà. Très détendue.
Tu peux nous montrer tes mains pour voir si ça tremble? Ça ne tremble pas, bravo Constance, c'est bien joué. Et on va retrouver tout à l'heure Jean de Chambure pour notre rendez-vous Vue d'Asie. Avec Jean, on va parler de taxi tout à l'heure. Le business du taxi en Chine qui est énorme avec évidemment l'arrivée d'Uber. Mais pour débuter l'actualité vue par toute l'équipe de l'atelier. Et on va commencer par Nathalie depuis San Francisco.
Oui, alors François, alors moi je voulais vous parler d'un nouveau rapport publié cette semaine par PitchBook. Alors PitchBook est une société de capital investissement ici. Et ils ont calculé, alors tenez-vous, quelles étaient les universités qui produisaient, si on peut le dire ainsi, le plus de start-up créées par des femmes. Donc on sait que c'est un sujet qui a besoin d'évoluer. Alors sur la méthodologie, PitchBook a utilisé les données remontant jusqu'à 2010. Donc ils ont utilisé toutes les données entre 2010 et 2015. Eh bien, c'est une université californienne qui arrive en tête, c'est Stanford. Alors, pas très étonnant, hein, quand on sait que cela fait près de 100 ans que cette université pousse ses étudiants à entreprendre. Et en deuxième, c'est l'université de Pennsylvanie. Et en troisième position, on revient en Californie avec Berkeley. Alors finalement, si on enlève ce critère de femme, puisque vous êtes aussi certainement intéressé à connaître quelles sont les universités qui produisent le plus de start-up tout court, eh bien Stanford arrive aussi en tête. Et en revanche, l'université de Pennsylvanie, elle, perd quelques places puisqu'elle redescend en cinquième position. Et Berkeley, elle, remonte en deuxième position. Donc voilà, les universités californiennes sont donc bien le moteur de l'écosystème des start-up ici aux États-Unis.
Voilà, merci pour ce petit guide des universités, c'était cool. Merci beaucoup Nathalie. On va retrouver Guillaume maintenant. Petite news.
Alors, petite news, moi je voudrais dénoncer personne, mais François a un iPhone 6 plus S. Il est
6S plus, attention.
6S plus.
Mon cher Guillaume, attention.
Quelle honte.
Voilà, oui. Donc...
c'est pour ça que vous regardez mon téléphone comme ça, de manière un peu persistante depuis tout à l'heure.
Donc, je ne sais pas comment vous l'avez obtenu, mais...
Je ne sais pas moi non plus, d'ailleurs. Je l'ai trouvé dans le studio, comme ça. Je l'ai pris.
Comme d'habitude, quand il y a un nouveau gadget qui sort chez Apple, tout le monde se rue la veille pour aller faire la queue, etc. C'est devenu un classique. Donc, cette fois-ci, l'iPhone 6, c'est la même chose. Sauf que, on a quelqu'un qui a eu une super idée, c'est de coller un iPad sur une sorte de petit robot. C'est quelqu'un qui s'appelle Lucy Kelly, qui travaille pour une boîte qui s'appelle Double Robotics et qui développe justement des robots, quelque chose qui est un mélange entre un Beam Pro et un Segway, donc une sorte de super Segway avec un gros écran d'iPad au-dessus. Donc ça, c'est plutôt amusant. Donc elle est restée tranquillement dans son lit et à 5h du matin, elle a envoyé son Segway avec son iPad faire la queue devant l'Apple Store.
C'est le premier robot qui a fait la queue. En fait.
C'est le premier robot qui a fait la queue.
C'est génial, attendez, un robot qui fait la queue à la place des humains.
C'est super, hein.
Non, mais ce qui est surtout génial, c'est que, bon, ça s'est passé en Australie, mais le truc qui est vraiment chouette, c'est qu'elle a pu profiter de son iPad pour discuter avec les gens qui étaient eux aussi dans la queue.
Ah oui, parce qu'elle était connectée.
À 5h du matin, ouais. Elle était la quatrième. Enfin, le robot était la quatrième. Ça veut dire qu'il y avait quand même trois autres personnes.
Et elle était à la cool, dans son lit, avec son petit café et tout ça.
Voilà, exactement. Et il y a une autre australienne quand même qui a le record absolu. C'est quelqu'un qui s'appelle Lindsay Handmer. Elle est restée 15 jours devant l'Apple Store de Sydney pour avoir son iPhone 6.
Oui, bon, là, à mon avis, elle a dû terminer après en hôpital psychiatrique, non, quand même. Mais alors, la question de Colin qui réalise cette émission, qui est pertinente comme souvent avec Colin, hein, est-ce qu'il y a personne qui a voulu piquer, en fait, ce robot? Parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait un gars qui passe, hop là, il prend le robot, il s'en va avec, il a un iPad.
Bah, non, parce qu'on est devant un Apple Store, oui, et on est en Australie, on est cool.
Oui, c'est vrai, on est cool parce qu'on est australien et deux parce qu'on est devant un Apple Store.
Exactement.
Donc on pique pas les robots.
Et est-ce que le robot a payé après, en fait? Est-ce que c'est,
c'est une bonne question. Parce
est-ce
qu'après...
qu'elle a dû se déplacer finalement au final?
Alors aujourd'hui, dans un Apple Store, normalement, on peut payer directement avec son iPhone. Donc est-ce que ça marche aussi avec l'iPad?
Ah, peut-être.
Peut-être.
Eh oui.
Est-ce qu'elle avait... Non, elle avait sans doute précommandé et prépayé.
Voilà, peut-être qu'il fallait simplement montrer patte blanche pour retirer le téléphone.
Roue blanche et iPad.
Voilà,
blanc.
C'est ça. C'est mignon comme tout. Merci beaucoup, Guillaume. Bon, Constance, il va bien falloir y aller. Hein,
y
au
y
bout
aller,
d'un moment, il faut se lancer. C'est la première news de Constance. Il faut y aller, Constance.
Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel qui permet de savoir où les crimes vont avoir lieu et à quelle heure.
Oula. Ah, vous tapez fort pour la première. Hein. Vous avez dit, là, je vais sortir la news de ma vie. Il faut que je trouve un truc incroyable. Voilà.
Donc, en fait, c'est l'entreprise Hitachi, une entreprise japonaise.
Oui.
Donc, qui vient de sortir ce logiciel qui permet à 200 mètres près, a priori, de savoir où va avoir lieu le prochain crime. Alors, la spécificité de ce système, c'est qu'il arrive à traiter un très, très grand nombre de données et surtout qu'ils viennent de sources vraiment très variées. Donc, ça peut être aussi bien les réseaux sociaux que les cartes de transport public ou encore, par exemple, les archives des précédents crimes, et aussi même la météo locale, car il faut le savoir, la météo, a priori, aurait une influence sur les crimes.
Oui.
Donc,
oui, quand il fait gris, quand il pleut, on a envie de tuer tout le monde, parfois. Hein.
Exactement. Et un des autres avantages aussi de ce système, c'est qu'il bénéficie de la technologie machine learning, qui lui permet donc de s'améliorer au fur et à mesure des crimes qu'il va enregistrer.
Donc plus il y a de gens morts, mieux c'est, en fait.
Exactement.
En gros, c'est ça. C'est génial.
Plus on arrive à identifier, voilà, en avance où aura lieu le prochain.
C'est super. Merci Hitachi.
Voilà, bravo. Merci Hitachi. Donc, on se demande finalement si le nouveau Sherlock ne sera pas une machine, après tout.
Eh bien, dites-moi.
Il y a un peu trop de machines, je trouve, dans cette émission.
Entre le robot qui fait la queue l'Apple Store, la machine qui détecte les crimes, Aurore, s'il vous plaît, sortez-nous de tout ça.
Moi, je vais vous parler de quelque chose de super joyeux. Je vais vous parler d'une armoire connectée qui fait office de pressing.
Ah oui. Ça, c'est énorme.
Là, c'est pas un robot.
On retrouve un peu la patte d'Aurore. Il faut que ce soit du concret, là. Vous voyez, voilà.
Donc, c'est une machine qui a été présentée à la New York Fashion Week et qui est proposée par LG, qui est plutôt connue d'habitude pour ses smartphones et ses écrans de télévision smart. Alors, cette machine s'appelle le LG Styler et se présente comme une armoire classique avec petite penderie, étagère. Et grâce à une technologie qui s'appelle TrueStream, qui envoie des jets de vapeur, l'armoire peut servir de pressing, c'est-à-dire qu'elle va à la fois nettoyer votre petite veste et puis la repasser en fait en secouant légèrement les vêtements.
Ah oui.
Oui,
c'est
en les secouant.
D'accord.
Ce qui est intéressant, c'est que, alors déjà, ça marche via un écran tactile sur directement l'armoire, hein, où on choisit la fonctionnalité qui nous plaît. D'ailleurs, elle permet aussi de désodoriser les vêtements.
Pas mal aussi.
Et ensuite, sur mobile, on peut recevoir des alertes pour la maintenance, c'est-à-dire que l'armoire va vous dire, là, il faut vraiment qu'on change
la
vapeur, le cintre, le cintre qui secoue.
Voilà.
Voilà, et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être développé dans les hôtels notamment.
Mm-hmm.
Une autre marque l'avait proposé il y a quelques temps, une marque suisse qui s'appelle Visog, sauf que celle-ci était toute petite et coûtait $12,000 alors que celle de LG coûte $2,000. Donc ça peut être pour effectivement des hôtels ou même des particuliers.
Voilà, une armoire intelligente.
Tout à fait.
En revanche, il ne faut pas que, vous savez, dans les vaudevilles, il y a toujours un amant qui termine. Dans l'armoire, il faut pas qu'il termine dans l'armoire parce que si on lance
la vapeur, ça peut faire mal.
Lance le cycle vapeur plus après le petit secours, ça va être un peu embêtant quand même. Bon, enfin bref, là c'est du vaudeville, hein, vous l'avez bien compris.
C'est ça.
Guillaume, on enchaîne.
Alors, moi j'avais encore envie de parler de robots.
Non, mais allez-y, bien sûr. Écoutez, c'est votre news, hein.
Alors, après avoir transformé les enquêteurs et la police grâce au Big Data, moi je vous propose carrément de remplacer l'assistante de bureau, l'assistante personnelle, par une machine. Cette machine, elle s'appelle Clara. Elle est développée par une entreprise américaine qui s'appelle Clara Labs et qui travaille sur l'intelligence artificielle, etc. Alors, c'est pas mal.
Elle ressemble à quelle Clara? Alors, moi, j'en connais plusieurs qui sont plutôt pas mal. Mais
je
ne après...
vais pas répondre à cette Bravo. Question.
Non, non, c'est bien. Vous avez évité le piège. Bien joué, Guillaume.
Par contre, Bravo. On pourrait imaginer qu'elle ressemble à Samantha dans le film Her de Spike Jonze. Hein, voilà, ça, c'est une bonne
idée. Oui, ça va. Vous vous en sortez bien.
Oui, c'est pas si mal. Yeah. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Clara, il suffit en fait de la mettre en copie de tous nos mails, hein, parce que finalement, on gère toute notre vie avec des mails. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent aux États-Unis. Et donc, du coup, on peut écrire à Clara, faisons un point demain à 11h, tac, elle est en copie du mail, et donc elle va mettre dans notre agenda, cher François, un point à 11h, tous les deux. Et si, pas de chance, le lendemain, j'ai la grippe ou le RER est bloqué, j'envoie un petit mail à Clara en lui disant « réorganise ma journée » et elle prévient tout le monde qu'il faut annuler les rendez-vous. Donc voilà, c'est le début. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est les technologies qui sont utilisées. C'est des technologies qui sont des technologies d'intelligence artificielle, de reconnaissance, etc. Donc là, c'est un peu gadget, je trouve. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que avec le machine learning, elle va pouvoir petit à petit apprendre et progresser et réellement nous décharger d'une certaine partie des tâches.
Intéressant, ça. Voilà. Elle s'appelle Clara.
Et elle s'appelle Clara.
Parfait. Très bien. Et maintenant, donc, notre rendez-vous vue d'Asie avec Jean de Chambure depuis Shanghai. Salut Jean.
Bonjour François.
Comment ça va à Shanghai? Tout va bien? Ça se passe bien?
Tout va super bien.
Bon.
Tout va super bien.
Jean, aujourd'hui, nous allons parler d'une guerre étonnante entre les drones et les taxis en Chine. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Écoutez, en fait, c'est la guerre, en tout cas, la bataille assez passionnante du e-commerce, du développement fantastique du e-commerce en Chine. Alors, la bataille d'aujourd'hui, c'est bien sûr l'extension en fait des géants sur d'autres secteurs d'activité. Je vous en avais un petit peu parlé la semaine dernière, mais effectivement, plus ça va, plus les géants que sont Alibaba, que sont Baidu, le Google chinois, ou que sont Tencent, donc le fameux créateur de l'application WeChat, eh bien, ils s'étendent sur d'autres secteurs d'activité. Alors, l'une des grandes idées qu'ils ont, c'est de voir comment ramener au fond toutes les activités offline vers l'internet, vers le mobile surtout, pour faire du business, faire du commerce. On a suivi notamment tout ce qui se passe avec les livreurs. C'est étonnant de voir à quel point tout est livré en Chine et tout passe par internet. Vous voulez prendre un gâteau d'anniversaire et paf, vous allez commander ça par internet. Vous prenez votre repas pratiquement, tous les repas sont commandés par internet.
Ah oui.
Enfin, c'est une gigantesque organisation de livraison en permanence par le biais des smartphones. Et évidemment, aussi, qui dit livraison quelque part, en fait, transport d'individus. Et c'est là que, évidemment, la bataille des taxis arrive. On avait parlé dans l'atelier de Titi Kouadi. Alors, Titi Kouadi, c'est Petit Frère Express, est en fait c'est l'immense concurrent de Uber en Chine.
Ah oui.
Pour vous donner une idée, c'est une bataille qui se joue à des milliards de dollars. Hein. Et en fait, celui qui est... ceux qui sont derrière Titi Kouadi, c'est les deux géants, donc Tencent et Alibaba. Et celui qui est derrière donc Uber, c'est Baidu, donc le Google chinois, qui a investi 1,2 milliard de dollars derrière Uber en Chine.
Ouais, c'est étonnant, on ne savait pas ça. On savait pas ça forcément, hein, qu'il y avait un gros actionnaire chinois derrière Uber.
Ah oui. Mais ça fait partie du deal un peu, François, si vous voulez. Je pense que pour que Uber puisse vraiment se développer en Chine, il faut qu'à un moment donné... les géants de l'internet chinois mettent eux-mêmes un peu la participation, la main dans la poche, mais aussi on tire à un moment donné des fruits. Et effectivement, alors du coup, ça se téléporte aussi même jusqu'en Inde, puisqu'en Inde, on a un équivalent, si vous voulez, l'équivalent d'Uber en Inde qui s'appelle Ola. Eh bien, Ola, c'est Titi Kouadi, donc là, pour le coup, le concurrent d'Uber, qui a investi dans Ola, ça a été annoncé cette semaine, pour développer plus vite que Uber, si possible, son application en Inde. La grande différence hein, de Titi Kouadi par rapport à Uber, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par oral, comme un petit peu ce qui se passe, vous savez, avec le fameux WeChat. Donc on envoie des petits messages oraux, comme ça, tac, et ça arrive directement chez tous les taxis. Et puis, c'est un peu la course à la criée. C'est le taxi qui est le plus près, qui a le meilleur prix, qui va pouvoir remporter la course.
Ah oui, pas mal.
Les drones, je vous en parlerai plus la semaine prochaine, mais là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Mais les drones, on n'en est qu'au début de l'histoire du drone, notamment maintenant avec ces drones autonomes qui volent tout seuls, qui n'ont plus besoin d'être pilotés. C'est assez effrayant tout ça. Merci beaucoup Jean de Chambure depuis Shanghai, c'était notre rendez-vous vue d'Asie. Et vous restez avec nous bien sûr, la suite de l'atelier numérique, notre Silicon Carnet dans une minute et puis notre Cyber Gadget avec Antoine Cyr qui nous rejoint. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business et dans quelques instants, ce seront les cyber gadgets d'Antoine et puis ensuite notre focus startup. On découvrira une cabine d'essayage assez étonnante avec Aurore Géraud. Mais dans l'immédiat direction, l'atelier San Francisco, c'est notre Silicon Carnet avec Nathalie Doré. Et Nathalie, aujourd'hui, on va parler d'hyperflexibilité. C'est pas facile à dire.
Oui, François, alors c'est une tendance qui se dégage et qui fait un peu peur et qui nous concerne quand même un peu tous. L'idée, c'est de se dire, voilà, comment rester un salarié ou un candidat attractif dans ce monde qui va voir bon nombre de ses métiers disparaître et de nouveaux métiers se créer sur lesquels on n'aura pas forcément les compétences. Donc voilà, sacré challenge. Alors ce challenge, il vient du fait que nos activités se digitalisent, qu'il y a un boom technologique, qu'il y a de la robotisation un peu partout. Bref, tout cela peut faire peur et les salariés ont parfois le sentiment d'être attaqués de toutes parts et de voir ça de manière pas très positive. Alors moi, je voudrais les rassurer car il y a des solutions qui existent et qu'on voit poindre ici en Silicon Valley.
Oui, parce que là, Nathalie, vous nous faites un petit peu flipper quand même. Qu'est-ce que vous avez pour nous là pour nous rassurer ?
Alors, tout d'abord, il y a des solutions qui existent autour de la data, puisque bon, plutôt que d'être fataliste aujourd'hui avec toutes les données qu'on a sur les offres d'emploi, les demandes d'emploi, on peut voir où sont les compétences manquantes et quelles sont les tendances à l'avenir et comment on peut agir. Et ici, en Silicon Valley, on voit bon nombre de startups se doter, vous savez, ces experts de la donnée, les fameux data scientists, pour travailler sur ce type de problème. C'est le cas d'ailleurs d'une jeune pousse qu'on a rencontrée ici qui s'appelle Base Impact et dont le fondateur est français, Paul Durand. Alors, une fois qu'on a cette image donnée des compétences à développer, il y a l'apprentissage en ligne qui est une bonne solution, une bonne réponse pour développer ces compétences. C'est un marché qui ne cesse de grandir et cela n'a d'ailleurs pas échappé au géant LinkedIn qui a racheté en avril dernier la plateforme d'apprentissage en ligne Lynda. Alors LinkedIn a déboursé, tenez-vous bien François, 1,5 milliard de dollars pour s'offrir les services de cette plateforme. Alors, c'est d'ailleurs l'une des plus grosses acquisitions de LinkedIn.
Mais qu'est-ce que c'est Lynda exactement Nathalie ?
Alors Lynda c'est tout simplement une plateforme qui permet de se former en ligne, d'améliorer ses pratiques de management. Ainsi, alors que ce soit du design, du développement web, bref, la page d'accueil de Lynda propose une dizaine de familles de formations comprenant chacune plusieurs milliers de vidéos et tutoriels réalisés par des experts. Alors pour Lynda, on est plutôt sur un format payant. Il y a un abonnement qui coûte entre 20 et 35 dollars par mois pour un usage illimité. Et c'est une entreprise californienne qui s'adresse donc à la fois aux particuliers, vous pouvez le faire vous-même sur le site et vous former, et elle s'adresse aussi aux entreprises qui peuvent proposer la plateforme à leurs collaborateurs. Donc en fait, en se faisant racheter par LinkedIn, et ben demain, on peut imaginer que sur LinkedIn, on pourra continuer à trouver des offres d'emploi, mais si certaines requièrent des compétences qu'on n'a pas, et ben on pourra se former directement sur LinkedIn.
En fait, Lynda, c'est un peu l'ancêtre des MOOC, non, Nathalie, si j'ai bien compris ?
Oui, alors c'est vrai, Lynda a été créée en 95, et puis ensuite, on a vu les MOOC, alors ces cours en ligne ouverts et massifs, qui sont arrivés en 2008 et qui, en fait, se développent très bien depuis seulement 2-3 ans. Alors, les MOOC sont en effet des formations en ligne ouvertes à tous, très souvent gratuites, contrairement à Lynda, et la plateforme de MOOC la plus connue est une fois encore une entreprise à Silicon Valley. Il s'agit de Coursera. Alors le concept est simple, Coursera a des partenariats avec les meilleures universités et organisations du monde entier et elle propose gratuitement des cours en ligne que vous pouvez suivre de chez vous. Alors selon Coursera, plus de 15 millions d'utilisateurs l'utilisent et bénéficient de plus de 1100 cours différents. Donc il y a voilà, déjà un gros volume de contenu sur la plateforme et pour la moitié des utilisateurs, l'objectif est vraiment d'acquérir de nouvelles compétences pour faire avancer leur carrière. Donc on est vraiment dans ce sujet de comment j'acquire des compétences, comment je reste à la page dans ce monde qui change dramatiquement. Alors, il reste quand même à faire évoluer les mentalités des entreprises. Certaines ne reconnaissent pas encore ces formations en ligne et les collaborateurs ne peuvent donc pas officiellement valider l'acquisition de leurs compétences. Mais C'est un sujet important qu'il faut continuer à pousser car il y aura de plus en plus de besoins de formation. On vit dans un monde qui devient hyper flexible, que ça plaise ou non. Et puis ces formations en ligne permettent également la démocratisation de l'accès à l'éducation, sujet non nul à prendre en compte également.
Très bien, merci beaucoup Nathalie pour ce Silicon Carnet. On enchaîne tout de suite avec Antoine Cyr et sa sélection de cybergadgets, Antoine.
L'atelier numérique sur BFM Business, best of.
Mon cher Antoine, qu'avez-vous comme gadget pour nous cette semaine?
Alors j'ai un gadget
Elle était bonne la Madeleine, hein, pendant la pub.
Mais oui,
ça vous a plu, hein? Eh bien voilà, maintenant vous allez en payer, vous allez payer le prix pendant 4 minutes.
Mais pas du tout, pas du tout. Écoutez, chers auditeurs, vous m'en êtes témoins.
Ça va très bien.
S'il n'avait pas eu ce, si François Sorel ne m'avait pas cafeté, personne ne saurait que j'ai mangé une Madeleine pendant la pub. Alors, je vais maintenant vous parler d'une invention. Oui. Qui est un stylet connecté.
Un stylet connecté?
Qui écrit sur n'importe quelle surface.
C'est pas vrai. Ça, si... Même sur votre front, par exemple.
Par exemple. Ah ouais. Alors, tenez, par exemple.
Prenons un exemple.
J'assiste à une conférence.
Oui. Passionnante.
Passionnante. Je n'ai pas de papier.
Ah oui, ça c'est embêtant.
Mais j'ai le stylet.
Et vous avez Jean de Chambure à proximité.
Et j'ai Jean de Chambure à proximité.
Qu'est-ce
que
vous faites?
Jean de Chambure. Nature généreuse s'il en est.
Bien sûr.
M'offre son front pour que j'écrive dessus.
Ah bah oui, voilà. Ça c'est sympa.
Alors, si j'avais un feutre, franchement, ce serait pas une bonne affaire pour lui.
Ah bah non. Alors,
voilà. Mais
enfin,
si
cela dit, tous les autres qui seraient dans l'assistance pourraient voir vos notes. Ça c'est bien.
C'est la double peine.
Voilà, c'est ça.
Hein, tandis que là, qu'est-ce qui se passe?
Alors d'abord, ce stylet s'appelle Free.
D'accord.
Mais ça s'écrit PH.
Ah oui. PHREE.
Voilà. PHREE.
D'accord.
Voilà. Ça a été créé par la start-up israélienne OTM Technologies.
Oui.
Et donc, en fait, ce stylet se connecte à n'importe quel écran par Bluetooth.
Oui.
Et donc, il écrit sur la surface parce qu'on a besoin, on a appris comme ça avec un stylo. On n'écrit pas dans l'air, on écrit sur quelque chose.
Sur un support, n'importe quel.
Sur n'importe quel support.
D'accord.
Rien n'apparaît puisqu'il n'y a pas d'encre au bout du stylet.
D'accord.
Ce qu'il y a au bout du stylet, c'est le fait que le mouvement du stylet va être reproduit sur un ordinateur qui, lui, va comprendre ce que j'ai pris.
C'est-à-dire que le stylet a des capteurs.
Exactement.
Et lorsque vous allez simuler l'écriture de ce que ce que vous écrivez, il va enregistrer tout ça.
Voilà, et c'est un petit capteur, hein, c'est pas un capteur grand. Non, c'est un capteur quasiment low cost. Voilà. Et donc ça marche avec plein de logiciels, d'applis, ça peut marcher sur Office, etc. Enfin, c'est une vraie innovation qui sera disponible dès mars 2016 pour $128 et qui est actuellement en précommande sur Kickstarter.
D'accord. Alors ça existait déjà, mais sur les tablettes graphiques, vous savez, où vous pouviez écrire, mais il fallait avoir un support particulier compatible avec le stylet. Là, on l'a bien compris, ça marche sur n'importe quoi.
Tandis que là, ça marche sur le front de Jean.
Et ça, croyez-moi, c'est quand même un support de luxe.
Absolument. Hein.
On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique. L'atelier, vous le savez, toute l'actualité high-tech chaque samedi, 16h-18h. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler de social shopping. Orangéro.
Shopping social, oui.
De shopping social. Mais qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Ben, on va le savoir avec nos invités.
Voilà. on va en parler dans quelques instants. On va retrouver tout à l'heure aussi notre web stratégie, avec la transformation numérique d'une grande institution, hein, Engie. Mm-hmm. Et puis après notre passion selon Sanet, on verra si les algorithmes vont changer notre manière de recruter. Voilà. Parce que c'est vrai que maintenant, grâce à la Big Data, il se passe des choses incroyables. On en parlera avec nos invités. Notre enquête de l'atelier dans un instant. Mais pour l'instant, on va retrouver notre Focus Startup. Et c'est avec vous, Aurore Géraud.
Oui.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Pour le Focus Startup de cette semaine, nous sommes avec Charles Nouboué, qui est fondateur de Fittle. Charles, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Fittle? Qu'est-ce que c'est?
Donc Fittle aujourd'hui, c'est la première solution qui permet aux utilisateurs d'essayer des vêtements sur eux, en ligne, sur leur corps, avant de les acheter grâce à la 3D. Donc aujourd'hui, dans un magasin physique, avant d'acheter un vêtement, l'utilisateur a la possibilité d'aller dans une cabine d'essayage, de vérifier le rendu sur lui, avant de se décider à acheter le vêtement ou pas. Sur Internet, par contre, un utilisateur ne peut pas le faire, donc il est obligé d'acheter des vêtements à l'aveugle, et résultat, un vêtement sur quatre est renvoyé ensuite à l'expéditeur, donc ce qui est un véritable problème. Fittle a développé toute une solution très simple pour l'utilisateur, très simple pour la marque, qui permet donc de visualiser le rendu d'un vêtement sur soi en différentes tailles, donc en M, en S, en double XL, de pouvoir vérifier le confort, si on est confortable ou pas dans le vêtement, tout ceci en ligne avant d'acheter le vêtement.
Si je suis un utilisateur, comment fonctionne votre application ?
L'application Fittle est disponible gratuitement sur l'Apple Store et sur Play Store. Donc en tapant juste Fittle, on retrouve l'application. L'utilisateur peut la télécharger. Il se crée un compte en moins de 30 secondes en prenant 3 photos de lui et en rentrant sa taille, donc sa hauteur. À partir de ces informations, on est capable de recréer un avatar qui est physiquement ressemblant, mais également morphologiquement exact, c'est-à-dire qui a exactement les mensurations de l'utilisateur que nous détectons automatiquement. Avec cet avatar, l'utilisateur peut ensuite aller sur n'importe quel site de marque partenaire et essayer tous les vêtements que nous avons déjà modélisés en 3D et ainsi visualiser le rendu du vêtement sur lui.
Est-ce qu'on peut imaginer que votre application s'adapte à tout site de e-commerce ?
Nous travaillons aujourd'hui principalement avec des marques de vêtements, c'est-à-dire des marques qui possèdent en fait les informations qui nous permettent de modéliser les vêtements en 3D. Mais il est possible pour nous de collaborer avec des sites e-commerce à condition qu'elles nous mettent en relation avec les marques et que les marques nous communiquent l'information nécessaire pour modéliser les vêtements en 3D.
Donc votre business model, c'est directement en partenariat avec des marques ?
Exactement. Aujourd'hui, quand on signe un partenariat avec une marque, donc il y a des frais d'installation et puis il y a une licence mensuelle pour utiliser la solution. Mais après, ça reste 100% gratuit pour tous les utilisateurs.
On connaît d'autres initiatives un petit peu dans ce sens. On connaît aussi des cabines physiques qui permettent des essayages virtuels. Qu'est-ce qui vous démarque de ce genre d'initiative ?
Aujourd'hui, il existe effectivement des solutions qui essayent d'apporter, de répondre à cette problématique. Mais Fittle est unique parce que déjà, quand vous parliez de cabine d'essayage, elles permettent aujourd'hui uniquement de recréer l'utilisateur en 3D ou juste de détecter ses mensurations. Les mensurations détectées sont aujourd'hui avec la même précision que l'application Fittle. L'avantage, c'est qu'avec Fittle, on peut le faire depuis chez soi, on peut le faire gratuitement et on peut le faire à l'heure qui nous convient. On peut le faire en vacances, ce qu'on ne peut pas faire par exemple avec les cabines d'essayage physique. Fittle en plus, avec notre technologie qui permet de recréer les corps, permet également d'avoir des vêtements qu'on peut essayer. Parce que le corps est modélisé d'une façon précise qui permet ensuite un essayage de vêtements, ce que ne permet pas de faire des cabines d'essayage physiques. Et d'autres concurrents qui donnent des mensurations, notamment certains concurrents qui ne sont spécialisés que dans la prise de mesure, ne permettent pas déjà de visualiser le rendu d'un vêtement sur soi et sont en fait assimilables à des vendeurs qui conseilleraient à un utilisateur une taille de vêtement suivant sa morphologie, mais on sait bien qu'on a tous des préférences de portée différentes et qu'à corps équivalent, on peut soit essayer du M, soit porter du M, soit du L, pardon, suivant les préférences de portée qui sont les nôtres.
Super, merci beaucoup Charles Nouboué, fondateur de Fittle.
Alors Aurore, vous restez avec nous puisqu'on va parler maintenant pour notre enquête de l'atelier de social shopping. On va mélanger en fait e-commerce, c'est ça, hein, et réseaux sociaux. C'est la grande tendance actuellement.
Le shopping communautaire aussi.
Voilà, le shopping communautaire.
Alors le shopping social, c'est 2,6 milliards de dollars de recettes. On en parle aujourd'hui avec Romain Moine, qui est CEO et fondateur de Where to Get, et Roxane Gaillard, directrice générale de Beautist. Romain et Roxane, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez, bonjour, si vous... Tous les deux, donner votre définition propre de ce qu'est le social shopping.
Et on va commencer parce qu'on est galant par Roxane. Bon, et gentil. Après, c'est à vous.
C'est gentil. Alors, le social shopping pour The Beautist, c'est vraiment un site e-commerce qui est tourné vers le social. Donc, on va avoir d'un côté des produits de beauté qui vont être en vente directement sur le site et une partie, en fait, qui va venir en réassurance avec du contenu beauté. Donc, ça peut être de la photo et de la vidéo. Et pour plus d'inspiration, en renforcement encore, photos, vidéos et articles. L'article, on va le laisser vraiment pour la partie plus inspirationnelle. Donc c'est comme ça qu'on va justement faire du social shopping. Tout le monde peut partager des photos, des articles, des vidéos sur le site. Et après, on a aussi tout ce qui est avis qu'on a mis en ligne très récemment cet été.
Et Romain, votre définition à vous du social shopping alors ?
Alors chez nous, chez Wear2Get, le social shopping, c'est le fait de pouvoir poster une photo sur notre plateforme. Et en fait, ensuite, on a une communauté d'internautes, on a 2 millions de personnes qui vont vous aider à retrouver le produit que vous avez vu sur Instagram, sur Pinterest ou sur Tumblr. Voilà. Donc c'est vraiment une communauté qui va aider au shopping.
Mais alors une communauté qui s'y connaît, parce que si moi je poste une photo, je sais pas moi, d'une cravate qui me plaît bien, il y a des gens qui vont retrouver la marque de cette cravate, le modèle, et m'indiquer où je peux l'acheter.
Exactement. Alors pour une cravate, c'est peut-être difficile, mais nous on est tourné essentiellement sur l'univers féminin.
Ah, oui, c'est vrai, c'est rare, c'est plus rare.
Et les internautes arrivent à retrouver presque tout. Et s'ils ne retrouvent pas le produit identique, ils vont retrouver un produit similaire, moins cher.
D'accord. Roxane, quel est le profil type aujourd'hui d'une acheteuse sur le web? Elle a changé par rapport à son profil il y a quelques années?
Oui, en particulier sur de la beauté, elle se rajeunit beaucoup et elle achète plus du tout de la même manière. Elle achète beaucoup plus. Pour l'instant, elle achète un peu moins cher, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas non plus acheter du luxe. Elle va l'acheter, mais par parcimonie. Et elle est je sais que je vais parler des 15-18, mais 15-25, voire 35. Et c'est elles qui vont acheter réellement, en tout cas pour le domaine de la beauté, c'est elles qui vont acheter en ligne.
Mais leur parcours, c'est quoi? Ça commence comment? Ça commence par les réseaux sociaux, par Instagram, par Pinterest, par des blogs, par Facebook. Comment ça marche?
Exactement.
La chaîne YouTube, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des communautés incroyables sur YouTube. Hein.
Les communautés beauté,
notamment en termes de beauté.
Les communautés beauté. Elles n'ont pas attendu The Beautist pour se créer, justement, parce que l'achat beauté, c'est tellement un achat intime qu'on a besoin, justement, de partager, de savoir est-ce que ça me correspond, est-ce que ça ne me correspond pas. Et on a justement analysé, quand on a créé The Beautist, en tant que site de social shopping, on a pris un petit panel de consommatrices et on leur a demandé un petit peu comment elles consommaient de la beauté sur Internet, si elles en consommaient et comment elles le faisaient. Et on s'est rendu compte qu'en effet, elles allaient sur des sites d'avis, sur des blogs, sur des chaînes YouTube, et elles n'allaient pas en voir un seul. Elles allaient en voir énormément. Après, Instagram et Pinterest, un petit peu moins, parce qu'elles avaient vraiment une démarche là pour le coup très inspirationnelle, très jolie. Elles aimaient voir des belles choses sur Instagram et sur Pinterest.
Oui, on est plus dans l'appréciation de jolies choses en fait, hein, sur Instagram ou Pinterest.
Exactement.
Alors que sur YouTube, on est un peu plus dans le vif du sujet, j'ai l'impression.
Ben en tout cas pour la vente,
oui.
On s'est rendu compte que Instagram et Pinterest, en termes de levier de vente, c'est meilleur que Facebook.
D'accord.
Et que Twitter, mais c'est pas aussi bon qu'un pur site e-commerce de social commerce comme on peut le faire aujourd'hui.
D'accord. Voilà. Très bien.
Les blogueuses se sont vraiment professionnalisées ces derniers temps. Est-ce que vos plateformes ont vocation à les concurrencer entre guillemets?
Ah non, on travaille en étroite collaboration avec elles. Au contraire, la plupart de notre contenu est apporté par des blogueuses et des youtubeuses. Donc elles branchent leur blog, leur compte Instagram, leur compte YouTube directement. Et hop, nous on récupère l'ensemble de ce contenu-là. On repère les produits qui sont à l'intérieur pour pouvoir justement les associer aux produits. Et on met en fait en avant régulièrement la blogueuse. Souvent des marques viennent nous voir pour travailler avec ces blogueuses-là, parce qu'on a maintenant 900 blogueuses qui sont inscrites sur The Beautist. Donc on va privilégier en fait celles qui sont inscrites chez nous pour qu'une fois qu'elles parlent du produit sur leur blog, on récupère ce contenu-là qu'on va mettre sur la fiche produit et ainsi permettre aux utilisatrices qui cherchent par exemple une crème hydratante ou un mascara d'avoir tout de suite tout le contenu qu'il peut y avoir sur ce produit-là et acheter en toute confiance surtout.
Romain, vous avez la même vision chez Wear2Get?
Oui, on n'est pas du tout concurrent des blogueuses. En fait, on reçoit énormément de contenu que des blogueuses ont pu poster sur leur blog ou sur leurs réseaux sociaux. Et donc les internautes veulent pouvoir acheter ce que les blogueuses ont porté. Et donc nous, après, on redirige du trafic vers ces blogueuses-là. Donc on n'est pas concurrents, on est plutôt des partenaires là-dessus.
Et face à un Instagram, par exemple, est-ce qu'il y a une forme de concurrence? Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué de se mesurer ou est-ce qu'il faut composer avec?
Instagram, on n'est pas concurrent, on n'est pas trop prétentieux, ils sont 1000 fois plus gros que nous, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Et puis, eux ne font pas seulement que la mode. Ils sont sur toutes les thématiques, sur tous les verticaux. Et donc, nous, on se concentre sur la mode et on essaie de faire quelque chose de très, très bien sur ce domaine qui est la mode. Instagram n'arrivera pas à nous concurrencer sur ce qu'on fait en redirigeant chacune de ses photos vers un produit achetable. Et ça, c'est la promesse de Wear to Get. Et on est les seuls sites en France et dans le monde à réussir à cette promesse-là.
Roxane?
Non, on n'est pas concurrent non plus. Au contraire, notamment avec Pinterest, on a travaillé en étroite collaboration. Ce qui nous a permis aujourd'hui, on a 370 000 personnes qui nous suivent sur Pinterest. Notre communauté sur Instagram est un peu plus petite. Mais on travaille beaucoup avec les blogueuses sur leur propre Instagram pour favoriser justement le poste de photo. Quand, par exemple, elles viennent d'acheter ou même... n'importe quelle utilisatrice ou consommatrice de produits de beauté, elle l'achète, elle hashtag le The Beautist. Nous, on va récupérer en fait directement cette photo et on va la poster sur le produit parce que cette information-là peut permettre justement de à une autre utilisatrice d'avoir assez d'informations pour acheter ce produit-là. Bien sûr, on va lui demander au préalable si on peut poster sa photo sur le site et si elle est d'accord. Mais si elle nous donne son accord, elle va pouvoir justement être utilisée, cette photo, pour servir à d'autres consommatrices de produits de beauté. Ça change complètement, en fait, l'expérience d'achat en le rendant plus communautaire. C'est-à-dire qu'on est quand même sur du e-commerce comme on le connaît aujourd'hui, et ça, c'est pas réinventé. Au contraire, ça va nous faciliter un petit peu les habitudes d'achat ne change pas. Par contre, on va avoir cette réassurance, cette information supplémentaire avec les avis, avec le contenu qui vont permettre de convertir encore plus.
Romain, vous êtes tous les deux placés aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose de très américain? Est-ce que y a la France pourrait être plus intéressée? Est-ce qu'on attendrait des e-consommatrices de se lancer un peu plus?
Ouais, nous on a 3 millions de visiteurs par mois sur notre plateforme, sur notre site et sur nos applications. Et il y a 60% de ces 3 millions qui proviennent des États-Unis. Mm-hmm. Et en fait, on s'est aperçu que les Américaines étaient beaucoup plus enclins à tester notre application. Voilà. Ensuite, notre application n'est pas en français encore. Mm-hmm. On va traduire dans les prochains mois notre application en français et puis dans toutes les langues européennes. Mm-hmm. Et pour l'instant, c'est vrai que l'ambition de départ était de dire on lance un produit sur le marché américain, on est français, on a une légitimité dans la mode, et donc on va essayer de se battre sur le plus gros marché. Et ça fonctionne très très bien, on est plus gros que certains concurrents américains qui ont levé 5 à 10 fois plus que nous en termes d'argent. Ça fonctionne très très bien. Ouais.
Et quelles sont les tendances à l'avenir? Comment tout ça va évoluer à votre avis? Est-ce que voilà les réseaux sociaux, les communautés vont être de plus en plus fortes ou finalement ça risque d'être une mode et qu'on passera à autre chose? Est-ce que vous sentez déjà l'avenir?
Mais les communautés, elles existaient déjà. Je cite par exemple Beauté Test, qui est le site numéro un des avis beauté. Mmh. Il existe déjà depuis 10 ans. Les blogs, ils existaient déjà. Les chaînes YouTube existaient déjà. Joy Phoenix a maintenant 1,9 million, je crois, de followers sur YouTube. Donc tout ça, ça existe. Cette communauté, elle existe. C'est juste le fait de le mettre en contact avec le produit. Et je pense qu'on en est encore aux premières générations de social commerce et que nous, même nous, au fur et à mesure, en étudiant les différents usages des utilisatrices, le site, il évolue, mais même nous, on a du mal en fait à faire évoluer le site assez vite par rapport à leurs habitudes de consommation.
Romain, comment sentez-vous l'avenir? Comment ça va évoluer tout ça?
Ouais, moi je suis assez d'accord. Je pense qu'on a eu des grosses plateformes qui étaient assez généralistes, type Instagram, type Pinterest, et puis en fait, ça va commencer à se verticaliser avec des plateformes très très fortes sur la mode, d'autres sur la décoration, d'autres sur la beauté. Et en fait, une plateforme généraliste ne pourra pas tout faire correctement.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup Romain Mord, donc de Wear to Get, et puis à Roxane Gaillard d'avoir été avec nous en studio, directrice générale de The Beautist. Merci.
Merci.
Aurore, on va revenir dans un instant pour la suite de cet atelier numérique. Vous restez avec nous, notre web stratégie. On va s'intéresser à la transformation digitale d'Engie. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Notre passion selon Sanet dans quelques instants. Les algorithmes auront-ils changé ou changent-ils déjà notre manière de recruter? Qu'est-ce que ça a changé pour des sociétés comme Randstad par exemple? On fera le point dans quelques minutes. Mais auparavant, notre web stratégie et on s'intéresse cette semaine à la transformation numérique d'Engie. C'est avec vous Lila Megraoua.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Alors cette semaine, on va s'intéresser à la stratégie digitale, la transformation digitale d'Engie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marc Florette. Bonjour.
Bonjour Lila. Donc je suis Chief Digital Officer d'Engie, un groupe spécialisé, donc comme vous le savez, dans l'énergie, l'électricité, le gaz, mais aussi les services à l'énergie.
Alors, racontez-nous un peu quand et comment Engie a amorcer son virage digital. Est-ce que dans son cas, on peut parler de virage?
Je crois qu'on peut parler de virage. En fait, pour nous, le digital, en fait, c'est pas une option. On comprendrait ou comprendrait pas. C'est vraiment une nécessité. On sait qu'actuellement, pour nous, le digital, finalement, c'est au moins six objets, six façons de se comporter. C'est tout ce qui est mobile device, les smartphones, les tablettes, qui se développent énormément, tout le monde le sait. C'est les réseaux sociaux, externes ou internes. C'est les objets connectés, hein, dont on sait qu'il en existe maintenant des milliards. C'est aussi tout ce qui est valorisation de données, les algorithmes, les plateformes de traitement de données. C'est les réseaux aussi physiques qui permettent de transiter beaucoup de données. Ça, souvent, on l'oublie. Et puis, la dématérialisation aussi de tous les processus. On pense souvent à certains processus pas forcément agréables, comme les impôts en ligne. Mais enfin, ça permet aussi d'être plus efficace. Et en tout cas, c'est une façon d'aider aussi finalement les citoyens. Il y a d'autres applications sans doute plus glamour.
Alors vous évoquiez l'évolution des métiers, enfin la partie métier. Est-ce que d'ailleurs chez Engie on peut parler d'une évolution de vos métiers au contact du numérique, voire l'émergence de nouveaux métiers?
Alors oui, c'est tout à fait le cas. Ce que je dirais, c'est que bon, j'ai été nommé par Gérard Mestrallet auprès de lui, donc en avril 2014, c'est récent, mais le virage d'Engie ne date pas de cette époque-là. En fait, la première chose que j'ai faite, c'est une cartographie. Et on s'aperçoit qu'on a déjà plus de 300 initiatives digitales. Donc, ça foisonne. Beaucoup partent du terrain. Et tant mieux. Il faut que ça continue. Il faut que peut-être rééquilibrer avec des initiatives qui vont venir du haut. Effectivement, pour aller dans le sens que vous venez de dire, soit pour inventer de nouveaux métiers, soit au contraire pour améliorer finalement nos métiers existants. Métiers existants. Nos métiers, finalement, on a deux grands métiers. On a un métier de relation avec le client, donc la relation B2C, hein, la relation avec chacun d'entre nous est consommateur d'énergie. Toujours dans la relation client, il y a le B2B, c'est-à-dire la relation avec des clients d'affaires. Ça peut être aussi le B2A, c'est les administrations, les collectivités locales. Et puis toute une déclinaison dans le B2B2C, le B2A2C, c'est-à-dire avec une intermédiation. Donc on voit bien que ça, c'est une dimension très grande pour nos métiers et où le digital joue un rôle très important. Et puis on a un deuxième grand métier qui est ce qu'on appelle les opérations. Alors ça, c'est moins visible du grand public. Il n'y a pas de relation directe avec les clients. C'est opérer des centrales électriques, c'est opérer des réseaux gaz, c'est opérer des infrastructures industrielles. Et ça fait partie d'un des cœurs de métier du groupe Engie.
Concrètement, est-ce que vous auriez en tête peut-être de nouveaux produits, de nouveaux services qui ont émergé avec cette mutation?
Alors, dans les nouveaux produits et services, on s'intéresse beaucoup à un sujet qui est à la mode, mais qui est à la mode parce que ça correspond à une nécessité. C'est la ville de demain, c'est la Smart City. C'est un sujet donc qu'on a commencé, sur lequel on travaille, sur lequel on a des offres. Et actuellement, on a une soixantaine de villes ou de territoires, je dirais, en France, qu'on a abordés avec une signature récente qui concerne d'ailleurs la ville de Mulhouse. Et donc, on essaie de effectivement d'aider les villes à se structurer. C'est en France, mais c'est aussi à l'international. On a gagné récemment un appel d'offres pour la ville de Barcelone pour structurer une plateforme qui accueille un certain nombre de données. Alors, à quoi ça sert tout ça? Parce que finalement, ça peut rester un petit peu abstrait. En fait, une ville, c'est comme une entreprise. Elle a des clients, c'est les citoyens. Comment on améliore la vie des citoyens? C'est un des buts de la ville, et le digital, il peut aider beaucoup, par une interaction entre les citoyens et le maire, les services municipaux. Donc ça, c'est un premier aspect. On retrouve finalement la structure d'une entreprise avec sa relation avec les citoyens, les administrés. Et puis, un autre aspect qui est le bon fonctionnement des services. C'est un peu l'équivalent de ce que je disais tout à l'heure pour une entreprise. C'est finalement les opérations. Comment on améliore cette efficacité? Et dans ce cas-là, l'efficacité des services, c'est par exemple faire en sorte que les données publiques, les données connues des services de la commune, les données des concessionnaires qui travaillent pour la mairie, mais aussi ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire les données venant de l'extérieur, mais néanmoins publiques, voire privées, en les achetant, ben tout ça, on arrive à les mettre ensemble, et ça apporte un plus, soit une meilleure efficacité, soit un meilleur service aux citoyens. J'ai été frappé d'ailleurs de voir, on est récemment, parce qu'on adore se benchmarker, et je crois qu'il y a de bonnes idées partout. On a récemment rendu visite à la ville de Boston. Ils ont créé aussi un service de visualisation pour les citoyens qui leur permet de voir en temps réel, alors c'est l'hiver évidemment, les routes enneigées, à tout moment, ils savent ce qu'il en est. Et nous, de la même façon, on a développé des services qui permettent de visualiser tous les bâtiments dans une ville, de façon à pouvoir faire soit des diagnostics énergétiques, soit regarder un petit peu la propagation du bruit en fonction des immeubles, de revêtement de la chaussée. Bon, c'est deux exemples concrets, mais évidemment, tout ça, ça n'a de limite que l'imagination, finalement, et la créativité de ceux qui travaillent dans ce domaine.
En 2015, en matière d'innovation, quels sont les grands chantiers d'Engie?
Les grands chantiers d'Engie, je crois que j'en citerai deux grands. Il faut qu'on accélère dans le digital. Alors, pour accélérer, pour moi, il y a ce qu'on appelle deux enablers, c'est-à-dire deux leviers. C'est d'une part une meilleure maîtrise des datas, et comment faire des corrélations, comment utiliser toutes les méthodes statistiques, comment avoir les bonnes compétences, tout ce qu'on appelle les data scientists, qui maîtrisent à la fois les notions d'algorithmique, de méthodes statistiques, mais aussi de codage, de langage, tout en tenant compte aussi des métiers dans lesquels ils évoluent. Autrement dit, on ne veut pas que de purs savants, il faut qu'ils soient reliés à notre business. Le deuxième grand levier, et qui à mon avis est capital dans la transformation numérique d'une entreprise, c'est le levier culture, c'est le levier management, c'est le levier RH. Et là, on fait beaucoup de choses et on va en faire beaucoup, que ce soit en matière de formation, de sensibilisation, d'exemplarité du management. Je vous cite un exemple. On a pensé que le top management devait donner l'exemple dans le digital. J'ai proposé une mesure qui a été adoptée, qui est en cours de déploiement, qui est le reverse mentoring. Le mentoring classique que tout le monde connaît, c'est quelqu'un d'expérimenté, donc d'un certain âge, qui va aider un jeune ou une jeune, je dirais, dans sa carrière. Et ça, en dehors de tout lien hiérarchique. Là, comme il s'agit de digital, on inverse. Et donc c'est un jeune, une jeune, et je sais que ça existe dans d'autres entreprises. On n'a pas inventé ce concept, mais simplement, il nous a séduit. Et donc, on l'a appliqué, on est en train de l'appliquer au top management, au top 130, et on va continuer, je dirais, de façon à ce qu'il y ait non seulement une sensibilisation, mais que le management, finalement, il soit proactif dans la transformation digitale du groupe.
Marc Fleurette, merci. Je rappelle, vous êtes directeur digital du groupe Engie.
Merci Lila. On revient dans un instant. Passion selon SNET et World Tour à suivre. C'est l'atelier numérique sur BFM Business. À tout de suite.